Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Derrière le rideau. Bonjour William, bonjour Fabrice,
salut,
bonjour
Rebecca.
Chers auditeurs.
Salut Fabrice.
Et bonjour donc Bernard Gouet et bonjour. Jean-Baptiste Prunet que nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la suite de la vie de Émile Gouet à partir de 1941.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers auditeurs.
La semaine dernière, nous avions terminé notre émission sur le Quatuor à cordes numéro 2, qui a été composé en 1941.
Donc sur son deuxième Quatuor à cordes, on peut dire qu'il compose en premier l'adagio. On va écouter beaucoup d'adagio aujourd'hui de pièces lentes de Milouet, alors qu'il y en a beaucoup de très vives. Bon, c'est un petit peu un hasard, mais aussi c'est parce que ce sont peut-être les plus touchantes. Et il compose cet adagio dans la souffrance du manque familial, dans la souffrance du manque de son épouse Yvonne.
C'est un quatuor qui est dédié à ma mère, et en particulier il lui dit qu'il a commencé par l'adagio qui était elle, etc. Bon, c'est un quatuor qui est effectivement un peu triste, mais il se termine alors par... C'est dans les deux dernières, trois dernières mesures, c'est des mesures d'espoir et de, comment dirais-je, de... C'est pas triste du tout, au contraire, c'est comme une envolée, comme une résurrection, mais en trois mesures. Donc, ce n'est pas négatif à l'arrivée, si je puis dire. Et c'est, moi, ça m'a toujours impressionné, quand même, dans certaines mélodies, où ça se termine, les mélodies terminent, hop, une appoggiature, alors quand on vous a dit que vous étiez tous prêts à mourir, etc., quoi.
D'ailleurs, le rondo du deuxième quatuor à cordes est d'un caractère relativement optimiste.
Oui, il y a de l'optimisme, quand même, il y a de l'espoir. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour dire pourquoi dédier ça à sa femme. D'abord, c'était un couple très uni. La deuxième chose, c'est qu'il l'a toujours associé. On se trouve très souvent dans ses lettres quand il lui parle de notre musique. C'est-à-dire que non seulement elle a fait beaucoup de démarches pendant la guerre pour le faire jouer, hein, elle est allée à toutes les portes qui étaient possibles, imaginables. Elle a essayé de le faire libérer je ne sais pas combien de fois. En particulier avec Cortot qui commençait au moins dans ses attitudes de libération quand même de certains prisonniers musiciens. Il n'est jamais arrivé pour moi en ce qui concernait Émile Gouet. Et elle l'a vraiment soutenu, comme je disais, je crois, j'ai dû dire que jamais il n'aurait fait cette carrière s'il n'avait pas eu ma mère. Et c'était vraiment notre musique. Et si j'ai pu reprendre à un moment... il y a quelques années, l'action en faveur de cette musique d'Émile Gouet, c'est parce que ma mère et M. Gordien, qui étaient son disciple et ami, m'ont laissé des choses, quoi, si j'aurais pas pu démarrer de rien. Mmh. Et vraiment, elle a vécu pour cet homme comme... je sais pas, enfin, petite anecdote, elle ne s'est jamais ni remariée, ni intéressée à quoi, elle m'a dit un jour, personne ne peut passer derrière ton père.
Ah. Donc elle l'a encouragée et elle l'aimait vraiment.
Hein. Ah oui, enfin, c'était la passion de sa vie et je pense que... Enfin, moi, je me rappelle avoir, vers 16-17 ans, m'était demandé comment elle avait résisté, parce que manifestement, à un moment, il y a des gens qui ont cru qu'elle qu'elle déraillait. Quoi. Attendre un homme toute sa vie, pendant 5 ans, comme ça, avoir vécu avec lui, défendu sa musique et le voir... Oui, entre ses bras en 40 secondes, c'est quand même assez... Il est avec 3 ans, avec 3 enfants derrière. Mmh. Ben voilà pourquoi ce quatuor est assez intéressant, pourquoi il est aussi dédié, mais en pleine de soi, mais toujours avec cet espoir de fin et
de fin heureuse.
Et alors, néanmoins, Émile Loué continue à composer dans le camp, dans des conditions difficiles. Il y a une chambre qui... Alors, le nombre de personnes dans la chambre varie beaucoup au fur et à mesure de la vie dans le camp. On passe de 3 personnes à 5, 6, 7 personnes dans les moments les pires, vers la fin de... avant la période de libération du camp. Il a souvent beaucoup de mal à se concentrer, beaucoup de mal à trouver le silence nécessaire pour pouvoir se concentrer et composer.
Et il a quand même écrit, il a eu, en 41, il a quand même écrit un concerto pour piano.
Voilà, il y a un concerto pour piano qui est prévu pour 35 exécutants sans percussion, en 3 mouvements, bien sûr, comme pratiquement tous les concertos. Et ce concerto, il est créé au camp, et surtout il est créé à Marseille, donc en zone libre, en 43. Le 15 janvier 43, et il passe à la Radio Nationale avec Henriette Roger au piano et Jean Clergue à la baguette. Voilà. Il travaille également sur des spectacles de camp, tel le ballet Renaissance, un ballet qui va se transformer en oratorio, mais dont on possède quelques photos, graphies faites dans le camp, une mise en scène assez extraordinaire. Il travaille avec Georges-André Martin, qui est metteur en scène et chorégraphe, n'est-ce pas, c'est ça ?
Mais en plus, cet oratorio, il a quelque chose de très particulier, dans le sens où c'est un oratorio
mimé.
Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans l'histoire de la musique d'oratorio mimé, mais c'est... Non ?
Ouais, non. Pas que je sache.
Mais en tout cas, une œuvre, on va dire, très originale, donc qui est composée en 1941.
Ça veut dire quoi exactement, mimé ? C'est-à-dire que... Il y a de la mise en scène.
Oui, c'est de la mise en
d'accord.
scène. C'est l'aspect ballet, en fait. Le mime, c'est l'aspect ballet.
Ah oui, ok.
En fait, c'est moins dansé que mimé. Mm-hmm. Voilà, et c'est pour ça que ça se transforme en oratorio.
D'accord.
Voilà, et en fait, à ce moment-là, Émile Loué prend conscience qu'il a fait beaucoup. Il a beaucoup donné de lui-même pour le camp, pour les aspects éducatifs, pour la pédagogie, pour donner de la vie spirituelle et de la vie artistique à ses co-détenus, mais qu'il a un peu délaissé son idéal de compositeur au passage. N'est-ce pas ? C'est un petit peu ça qu'on peut dire Il en souffre.
Il s'en défend à un moment, parce qu'on l'accuse, effectivement, certains critiques l'accusent d'avoir fait certaines œuvres faciles, et il répond justement en disant oui, c'est peut-être des œuvres qui ne sont pas très profondes, mais j'étais pas dans un état naturel, et deuxièmement, je n'avais pas un public averti, c'est-à-dire qu'il a écrit beaucoup pour ses co-détenus. Donc c'est des choses, effectivement, qu'après, non pas qu'il renie complètement, mais qui ne juge, je vais la presque dire, indigne de lui. Il avait un orgueil, mais de compositeur, un peu un orgueil d'homme.
Prend conscience de son esthétique musicale.
Voilà,
et il voit la richesse que lui proposent les techniques modernes de l'harmonie, la polymodalité, la polytonalité. Et il se ressent un petit peu de culpabilité d'avoir fait des, je dirais, des choses un peu plus faciles, un peu plus romantiques. Et il va avoir tendance à rejeter cette première période qui fait pourtant bel et bien partie de sa personnalité, puisque c'est un homme qui est doué de beaucoup de lyrisme, qui a le chant intérieur. Et donc il va retoucher pas mal de ses partitions encore dans cette période de Caen. Il décide de se reprendre en main et je dirais d'affirmer son esthétique de manière beaucoup plus ferme. Et cela va se traduire dans une œuvre, un duo pour violon-violoncelle qu'il compose donc au Caen. Et on va écouter le troisième mouvement de ce duo qui traduit cette démarche personnelle de réaffirmation de son esthétique. Donc le troisième mouvement, très vif, à la Zingarese du duo pour violon et violoncelle, une forme qui avait été déjà travaillée par Ravel et puis par Erwin Schulhoff. Voilà, donc on peut peut-être écouter cette pièce.
À partir de la fin 42, Émile Gouët évolue. Oui. Pour lui, au niveau compositionnel, c'est un grand changement, une remise en question de ce qu'il avait fait jusqu'alors.
Pour le passé, il dit « le niveau de ma vie spirituelle s'est abaissé ». Je trouve ça un peu sévère quand même, parce que l'assistance qu'il a portée à ses co-détenus est quand même extrêmement précieuse, quoi.
Oui, mais il parlait de sa musique. À ce moment-là, il disait que la fin, il disait toujours que la fin, c'était difficile à supporter, mais moins que la perte de la vie spirituelle. Enfin.
Voilà, et là il va évoluer, et il reprend des compositions pour piano. Il a un piano, je crois, pour composer, en très mauvais état le piano,
oui,
au Caen. Et en plus, il le casse.
Qui est-ce qui le casse ?
Lui, parce qu'il joue trop fort.
Et donc, c'est là qu'arrive la deuxième... on a déjà parlé de la première suite des ambiances. Il compose la deuxième suite des ambiances, Orage, Fleurs mortes et Renouveau. Dans Orage, on a des accords bitonaux qui contiennent à la fois une harmonie, la dissonance et donc sa résolution à l'intérieur du même accord, qui font des colorations très très particulières. Et puis il y a cette deuxième pièce des ambiances de la deuxième suite des ambiances qui s'appelle Fleur morte, qui a un caractère très particulier, une forme de prière, une litanie, dira-t-on, qui il a mis entre parenthèses sur la partition, je crois, à la mémoire d'un bébé, c'est ça, Bernard ?
Non, il a mis 4 septembre.
4 septembre, c'est la date fatidique du décès de Claude, et de la naissance et du décès de Claude.
Voilà, exactement. Et donc, elle s'appelle Fleur morte.
Elle s'appelle Fleur morte. Voilà, c'est touchant pour ce petit bébé. Et donc, on va peut-être écouter Fleur morte.
On écoute Fleur morte.
Dont le premier accord est très symptomatique.
Vous avez écouté à l'instant un extrait de Ambiance, deuxième suite pour piano, opus 35, écrite en 1942 par Émile Gouët. Il s'agissait donc du deuxième mouvement, Fleur morte, qui a été interprété au piano par...
Diane Anderson.
Merci. C'est toujours à ce moment-là, il prend conscience, du besoin d'évoluer vers une autre forme de musique, plus moderne. Et en même temps, il se rattache à une tradition, la tradition qu'aucun musicien ne peut renier, je crois, c'est Bach. Et donc, il va composer un de ses chefs-d'œuvre, qui est le prélude, chorale et fugue, qu'il considère comme son chef-d'œuvre absolu à ce moment-là. Et il dit, c'est un des plus beaux fleurons de ma couronne. Voilà. Alors, prélude, chorale et fugue, il y a une grande pièce magnifique de César Franck qui s'appelle prélude, chorale et fugue. Il n'y a pas de relation avec César Franck, bien qu'il soit dans l'école de César Franck à l'origine de sa formation. Il dit, c'est Bach, mon modèle.
Et donc, c'est comme ça que nous terminons cette cinquième émission consacrée à Émile Gouët. Nous allons donc vous faire écouter un extrait de Prélude, chorale et fugue. Tu nous proposes de jouer la fugue, peut-être Bernard préfère autre chose.
Le choral. Je pensais le choral. Il y a les altérations de l'accord parfait sur des octaves augmentées avec beaucoup d'étrangeté. Alors, avec un thème très long, c'est très particulier.
Alors, nous écoutons le choral par Samuel Ternoy. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de la vie d'Émile Gouët. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir Rebecca, au revoir Fabrice, au revoir Bernard, au revoir Jean-Baptiste.
Au revoir à tous.
Et à la semaine prochaine.
À très bientôt.